Alors, nous allons commencer notre 55e leçon dans notre série Le péché, les 10 commandements, la grâce. Aujourd'hui, on va regarder le calvinisme et l'écuménisme dans sa troisième et dernière partie. Alors, on avait entrepris, au cours des dernières leçons, de situer le calvinisme par rapport aux autres grands mouvements religieux de notre époque. On avait vu le fondamentalisme chrétien, le néo-évangélisme, le pentecôtisme charismatique et également l'écuménisme, dont on avait déjà vu deux leçons dans nos leçons précédentes. Alors, on avait examiné brièvement dans nos leçons précédentes l'histoire de l'écuménisme. On avait aussi commencé à étudier ses caractéristiques, ses croyances et ses erreurs avec les Saintes Écritures. Alors, on avait décidé de reproduire un article qu'on avait trouvé sur Internet qui s'intitule « L'écuménisme, où est la vraie unité des chrétiens? » qui était paru sur le site web bibliquest.org. Alors, on va le reproduire intégralement et on est rendu à la troisième partie. Alors, on tient à préciser que dans l'ensemble, ce qui est écrit, on l'approuve, excepté on n'a pas la même position qu'eux sur l'enlèvement. Alors, juste cette mention-là qu'on se doit de faire au début pour être honnête. Alors, il débute l'article en disant « Quel avenir il y a pour la chrétienté? » Alors, il demande la question « L'Évangile peut-il triompher quand Christ... » Excusez, reste rejeté. Des âmes pieuses, mais mal instruites, rêvent de voir le monde entier, converti à l'évangile de la grâce, l'Église élargie aux dimensions de l'humanité et le royaume de Dieu ainsi instauré. Cette idée séduisante ignore malheureusement l'enseignement de l'Écriture. Celle-ci montre clairement l'Église comme associée à un Christ actuellement rejeté, qu'il l'enlèvera auprès de lui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18, lorsqu'il sera sur le point de prendre en main le pouvoir pour établir le royaume de justice et de paix sur la terre au travers de jugements terribles. Jusque-là, la grâce est offerte, le monde n'en veut pas, les rachetés sont retirés du présent siècle mauvais, comme dit Paul aux Galates dans le chapitre 1, verset 4. Ils échappent à la corruption qui est dans le monde, comme il est mentionné dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, et comme il est mentionné également dans Jean 17, verset 16, ils ne sont pas du monde. Alors, il semble que maintenant, on assiste à un laisser-aller, un laisser-faire partout. Mais, bien entendu, cela n'est pas inéluctable. Le manquement de l'Église à son témoignage est la conséquence de l'oubli de sa vocation céleste. La raison profonde de l'état dans lequel se trouve la chrétienté, c'est que l'Église a oublié que sa vocation est céleste et exclusivement céleste. Elle a laissé le monde la pénétrer. Elle s'est liée à lui. L'ivraie a poussé avec le froment. Le levain a fait fermenter la pâte. Le grain de moutarde est devenu le grand arbre servant de repère aux oiseaux du ciel, comme il est mentionné dans le chapitre 13 de Matthieu, les versets 24 à 43. Toutes sortes de fausses doctrines sont écloses. Des multitudes s'appellent chrétiennes sans avoir la vie de Dieu. Et la chrétienté mondanisée, épanouie en ses diverses formes, usurpe le nom d'Église. Elle sera jugée par le Seigneur d'après ce titre dont elle se pare, mais elle n'est pas l'Église. Celle-ci, qui a tristement manqué à sa mission, se trouve toujours au milieu d'elle, connue seulement de son chef, qui s'en occupe avec fidélité et sollicitude. Dans Matthieu 13, 28, on mentionne « Un ennemi a fait cela, parce que les serviteurs ont dormi. Où trouver un remède? » Alors le Seigneur avait dit dans le verset 30 du chapitre 13, « Laissez-les tous deux croître ensemble jusqu'à la moisson. » Autrement dit, il est impossible de rétablir ce que l'homme a gâté. Mais il est toujours possible d'agir en accord avec ce qui demeure. Il ne peut être question de refaire l'Église primitive, mais bien de vivre comme l'Église permanente, avec le secours de Dieu, et selon que l'enseigne sa grâce avec sa parole écrite. Alors, il semble qu'actuellement, on assiste à un phénomène de mondanisation de l'Église, et bien entendu, ici, il faut mentionner que la mondanisation ne doit pas être confondue avec le terme mondialisation. Alors, la mondanisation est la tendance de l'Église à se conformer au monde qui l'entoure. La mondialisation est le phénomène observé selon lequel les mêmes problèmes se posent partout dans le monde et proviennent d'interactions de tous les peuples et de tous les mouvements. La parole de Dieu est sévère contre la mondanisation. Par contre, les prophéties globales sur l'histoire de l'Église en Apocalypse chapitres 2 et 3 et sur les châtiments qui suivront le temps de grâce concordent avec une généralisation des problèmes et des fautes, ce qui relève de la mondialisation. Nous n'avons pas à nous étonner de l'état des choses dans la chrétienté. Il a été annoncé par les apôtres, le mal ayant commencé dès leur époque et n'ayant cessé d'empirer. L'abandon du premier amour, l'Église d'Éphèse, la mondanisation retardée par les persécutions, l'Église de Smyrne, l'emportant ensuite l'Église de Pergame, l'idolâtrie associée à la profession chrétienne au sein d'un vaste système religieux et corrompu et dominateur, l'Église de Thyatire, le formalisme mort gagnant ceux qui étaient sortis de ce système, l'Église de Sardes, le peu de force d'un témoignage fidèle et méprisé, l'Église de Philadelphie, l'orgueil spirituel excluant Christ, l'Église de Laodicée. Voilà autant de chapitres d'Apocalypse 1 et 2 d'une histoire profondément triste si on ne considère que le travail de l'homme, mais histoire merveilleuse si l'on considère la patience et la constance de celui qui marche au milieu des sept lampes d'or, comme on peut le lire dans l'Apocalypse, dans le chapitre 1, le verset 12 et le verset 20. Il est prêt à venir, jugeant Jézabel et les siens, surprenant Sardes comme un voleur, vomissant de sa bouche Laodicée, mais chargé de promesses et de récompenses pour les vainqueurs, ceux qui ne se seront pas laissés entraîner par le courant général ambiant. Christ revient. Il n'est pas encore venu. La chrétienté n'est pas encore mise de côté par Dieu. Si grave que soit son état, si grande que soit sa responsabilité, elle est encore l'objet de son support et les avertissements sont donnés pour la pousser au repentir. Mais sa ruine ne fait que s'accentuer malgré les apparences, les hautes prétentions et les activités multipliées. Le témoignage philadelphien participe à la ruine, ce qui n'autorise en aucune façon à l'abandonner. Au contraire, écoutons celui qui dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, on va regarder que les événements qui se produisent actuellement, c'est le déroulement qui se produit selon la prophétie. Et qui se dirige vers le pire, donc l'apostasie. Où tout cela aboutit-il? Le lecteur attentif du Nouveau Testament se convaincra que le dénouement se fera non point par le triomphe sur la terre d'une Église restaurée, mais par la venue du Seigneur, d'abord pour enlever les siens, Jean chapitre 14, verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 18. La différence avec les simples chrétiens de nom, nous ne la voyons pas beaucoup aujourd'hui, mais le Seigneur saura qui il doit enlever, ceux qui sont nés de nouveau, et qui il doit laisser, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. La venue du Seigneur sera ensuite pour juger ceux qui habitent sur la terre, ceux qui resteront après l'enlèvement. Ceci sera le jour du Seigneur de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et il ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, c'est-à-dire le reniement de la foi chrétienne parce que gardera encore pendant quelque temps la forme grandiose de l'édifice de la chrétienté. Parallèlement, aura lieu le reniement de leur Dieu par les Juifs rentrés dans leur pays. Et alors sera révélé l'inique, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, l'homme de péché, autrement dit, l'Antichrist qui séduira Juifs et nations. L'apostasie est présentement en marche, elle progresse avec rapidité, mais elle n'est pas encore ouvertement arrivée. Elle aura lieu ouvertement quand la véritable Église aura été enlevée. Le développement d'une profession religieuse sans vie n'est pas encore complet. Il le sera quand celui qui retient maintenant, le Saint-Esprit, sera loin, de même que ce qui retient tout ce que Dieu, dans son gouvernement, emploie pour freiner ce développement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7. Mais le mystère d'iniquité qui opérait dès le temps de l'apôtre est prêt à surgir au grand jour. Tout se prépare activement pour l'entrée en scène de ceux qu'on a appelés les grands acteurs de la crise finale. Crise que résoudra l'apparition glorieuse du Seigneur. Parmi ces acteurs, il y a Babylone la Grande. Une fois l'Église véritable enlevée au ciel, il restera sur la terre toute la structure de la chrétienté, la grande maison de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, vide de tout ce qui a eu la vie de Dieu, mais pleine de ceux qui n'auront été que des chrétiens professants ou de nom. Cela aura pour un temps l'apparence la plus splendide, mais la plus trompeuse. L'unité du monde dit chrétien se fera, oui, mais dans cette Babylone orgueilleuse, opulente, intrigante que décrit symboliquement le chapitre 17 de l'Apocalypse et dont le chapitre 18 évoque les richesses et l'influence sans égale. La grandiose édifice romain subsistera avec toute son imposante organisation. C'est en son sein que s'accomplira une confusion, c'est le sens du mot Babel ou Babylone, une confusion qui sera religieuse, qui sera totale, l'apostasie vraiment de la chrétienté, donc Christ qui sera mis de côté. Orthodoxe, protestant, catholique, ces mots ne compteront plus. Sur le front de la grande prostituée, il y aura un nom écrit, Babylone la Grande, Apocalypse chapitre 17 et verset 5, ainsi que Daniel chapitre 4, verset 30. Les points capitaux du christianisme demeurent jusqu'ici enseignés, y compris dans le catholicisme, bien qu'ils soient déformés et étouffés par des traditions mises au rang de l'Écriture et même au-dessus. Il n'en subsistera rien quand Babylone règnera et que sous la crosse de Rome, l'unité de la chrétienté apostate sera réalisée. Mais bientôt, il sera dit, en une seule heure, elle a été désolée. Apocalypse 18, verset 19. En une seule heure, son jugement est venu. Apocalypse 18, verset 10. Le pouvoir civil, donc qui sont les 10 cornes de la bête, la détruira. Celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Apocalypse 17, verset 16 et 17. Alors, il y aura, à cette époque, persécution et oppression. Si nous avons, ci-dessus, mis en garde contre le danger d'être séduits par l'écuménisme, si nous avons dévoilé son devenir jusqu'à la totale confusion religieuse de Babylone, il y a en outre des périodes ou des lieux où l'écuménisme deviendra oppresseur ou persécuteur. C'est même historiquement une des premières phases de la puissance de Babylone après que Dieu eut mis de côté son trône à Jérusalem, comme on peut le voir dans Daniel chapitre 3. Le vaste empire babylonien était difficile à gouverner en raison de la multitude de peuples qui le composaient. Alors son roi songea à créer une unité spirituelle qu'il mit en œuvre par le moyen de l'idolâtrie, imposant à tous ses principaux fonctionnaires d'adorer simultanément une seule et même statue d'or. C'était de l'écuménisme avant la lettre. La condamnation à mort était prévue pour ceux qui refuseraient de se prosterner devant elle. Les trois amis de Daniel ayant refusé, ils furent jetés dans une fournaise de feu, chauffée 7 fois plus que d'habitude. Comme on peut le lire dans Daniel chapitre 3, verset 19. Mais Dieu les en délivra. La volonté d'unifier les églises en vue d'objectifs terrestres amène les gens et les dirigeants à ne pas supporter ceux qui n'acceptent pas de concourir à leur mouvement ou même qui s'y opposent. Ceux qui insistent sur l'importance de l'Écriture comme seule référence sont qualifiés de toutes sortes de noms, comme diviseurs, trouble-fête, pharisiens, gens qui s'érigent en juges, ignorants et par-dessus tout fondamentalistes, ce qui est aujourd'hui devenu une injure. De tout temps, l'union du pouvoir civil avec le pouvoir religieux a été un objectif intéressant. Ces deux pouvoirs, tant il est difficile de faire marcher les peuples dans l'unité et la cohérence. Ce mélange des deux pouvoirs religieux et civils est symbolisé par la fornication, comme on peut le constater dans Apocalypse chapitre 2, verset 22, et par Babylone, assise sur la bête, Apocalypse chapitre 17, verset 3. Or, ceux qui veulent rester fidèles dans un tel état de choses sont méprisés, puis opprimés, voire persécutés. À Thyatire, on les accusait d'avoir connu les profondeurs de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 24. La Babylone d'Apocalypse 17 est enivrée du sang des saints. Tandis que dans la Babylone de Nabuchodonosor, on jetait les fidèles au feu, et plus tard, à la fosse aux lions. L'oppression peut prendre des formes variées, locales ou générales, variant en intensité et en cruauté. En premier lieu viennent les menaces, puis les brimades, les amendes, la prison. Mais le principe reste le même. On veut que toutes les religions contribuent de gré ou de force à l'édification de la société. Pour ce faire, le pouvoir civil voit d'un bon œil que toutes les religions commencent par marcher ensemble de gré ou de force. Les croyants fidèles n'ont ainsi rien de bon à attendre des développements de l'écuménisme. Puissent-ils prendre modèle sur la foi et la confiance des trois amis de Daniel qui ne savaient pas s'ils seraient délivrés de la fournaise de feu, mais qui savaient que Dieu pouvait le faire et que de toute façon, il les délivrerait de la main du roi. Leur décision de n'adorer que Dieu et de n'obéir qu'à lui était inébranlable. Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme on peut le lire aussi dans Actes 5, verset 29. Dieu sait comment maintenir ou faire briller son témoignage ici-bas par des instruments rejetés de tous, comme Christ l'a été en son temps. Alors, on va, le prochain chapitre regarde la place du fidèle indépendamment des circonstances et parle de ce qui est immuable, donc la parole de Dieu qui est suffisante pour les besoins des croyants. Le diable a toujours cherché à faire douter de la parole de Dieu et à induire le croyant dans un chemin indépendant de Dieu. On trouve cela dans le Jardin d'Éden, de la part du serpent à l'égard d'Ève, mais aussi de la part du diable lorsqu'il a tenté notre Seigneur au désert. La réponse de celui-ci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Montre combien cette parole de Dieu, la Bible, est la réponse nécessaire et suffisante à tous nos besoins pour nous diriger sur le chemin de la course chrétienne. Dieu a pourvu à tout et a donné toutes les ressources à nous d'être et de rester obéissants. Alors on se doit de bâtir une unité qui est conforme au caractère de Dieu. Il n'y a donc pas d'autre chemin vers l'unité qu'un chemin de séparation du mal. Il en est ainsi parce que Dieu ne veut pas de communion entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Certains prétendront que cela revient à abandonner l'idée d'unité des chrétiens. Cela n'est pas vrai. L'unité est faite. Elle est à vivre. Ceux qui obéissent se trouvent ensemble sur le fondement qui demeure. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. L'expression de l'unité du corps se trouve essentiellement dans le seul pain, à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 17. Ceux qui y participent témoignent par là de l'existence du corps de Christ, bien qu'ils aient conscience de ne pas en être les seuls membres. Ils ont la responsabilité de marcher en conséquence dans l'obéissance à la parole. Ils traduisent par ce symbole cette unité qui est faite et qui n'est pas à faire. Il leur appartient de la montrer en pratique dans l'amour et la vérité. C'est cela, garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Ils ont à leur disposition les ressources et les instructions de la parole données de tout temps à l'Église. Qu'ils soient 2 ou 100 ou des millions, ne change rien aux privilèges et aux responsabilités de cette Église dont ils ont, même en faible nombre, à témoigner qu'elle existe. Alors nous devons suivre un chemin de fidélité. Entre des églises qui admettent que la vérité est quelque chose de relatif et qui contredisent par leur existence l'unité de l'Église, ou une Église catholique qui se prétend la seule, tous les autres chrétiens étant réputés par elle étant schismatiques, comme orthodoxes ou anglicains, ou hérétiques, protestants en général, ou injures suprêmes, fondamentalistes, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. La place des fidèles n'est plus ici que là, sous peine d'accepter l'erreur ou le mensonge. La place du fidèle est dehors, vers Christ, et Christ seul. Hébreux chapitre 13, verset 13. Le Seigneur reconnaît certainement des esclaves à lui dans Thyatire, dans Sardes, dans Laodicée, mais quel que soit le nombre de ses fidèles, cela ne change rien à la condition de ses assemblées, représentant autant de systèmes qui vont être jugés. L'autre source d'encouragement qui nous montre la voie à suivre est la faible église de Philadelphie, Apocalypse 3. Ayant gardé la parole et n'ayant pas renié l'union de Christ comme le saint et le véritable, elle est la seule église de ces chapitres ayant l'approbation de Christ. Alors la parole de Dieu appelle et appellera encore à la séparation. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, comme il est mentionné dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Quand le jugement s'abattra, ce sera trop tard pour sortir de Babylone. La chose est dite à l'avance, comme toutes les choses dont l'ange envoyé par Jésus en témoignage dans les assemblées. Apocalypse 22, verset 16. Pour que celui qui a des oreilles et qui entend, instruit par les paroles prophétiques, prenne maintenant la position à laquelle le Seigneur l'appelle. L'injonction à se séparer du mal, en 2 Timothée chapitre 2, verset 19, est individuelle, mais elle est donnée pour que celui qui se sépare se retrouve avec d'autres sur le vrai et seul fondement. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. L'appel à sortir de Babylone, Apocalypse 18, verset 4, s'adresse à ceux que le Seigneur désire trouver, en train de l'attendre, Luc 12. Seulement, si cette séparation n'est à son tour qu'une simple profession extérieure, elle serait plus coupable que toutes les autres. Affirmer être ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, 2 Timothée chapitre 2, verset 22, risque de devenir une prétention sans réalité, la pire vanterie laodicienne, et ce serait ajouter simplement un nom à l'affligeante liste des sectes que le Seigneur vomira, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Il ne s'agit pas de dire seulement, mais de montrer que l'on poursuit la foi, la justice, l'amour et la paix. 2 Timothée chapitre 2, verset 22, d'un cœur non partagé. Alors, il y a un appel à ceux qui ont connu la vérité. En est-il ainsi de nous? Cette question s'adresse à ceux qui ont lieu de bénir Dieu pour leur avoir ouvert les yeux sur ce qu'est l'Église selon la parole. Reconnaissons, en nous humiliant, que nous n'avons pas rendu ce témoignage simple et droit auquel nous avions le privilège d'être conviés. Puisque le Seigneur veut bien encore nous faire entendre sa voix, pour nous rappeler sa promesse et pour nous avertir, ne fermons pas nos oreilles. Je viens bientôt, dit-il, l'attendons-nous. Prenons garde. Et il est à désirer que ceci soit particulièrement médité par la jeunesse, tentée de vendre son droit de premier-né. Si nous écoutons les voix parfois émouvantes de chrétiens en crête de l'unité, nous ferons des progrès vers cette unité illusoire et nous reviendrons en arrière au sentier incertain où ces chrétiens peinent encore et nous nuirons aux âmes sincères au lieu de les aider. Veuille le Seigneur nous garder de nous considérer soit comme une église, soit comme l'église et de nous tenir attachés à lui dans la dépendance et la soumission pour porter le caractère de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, de ceux qui retiennent la précieuse vérité de sa présence personnelle dans le rassemblement, Matthieu 18, verset 20, et qui réalisent là l'unité, jouissant d'un avant-goût de ce qui sera bientôt manifesté dans la gloire, et qui poursuivent vers lui, le Christ glorifié, l'espérance de l'Église, et non vers Babylone. Alors l'unité des chrétiens ne peut avoir lieu qu'entre enfants de Dieu nés de nouveau et marchant dans la vérité selon la parole de Dieu. L'unité ne peut pas être faite en rapprochant des églises, mais l'unité est faite par Christ formant tous les vrais croyants en un seul corps dont lui est la tête. La place du fidèle est de marcher continuellement dans le chemin de fidélité et d'obéissance à la parole de Dieu, en vivant cette unité divine qui n'est pas à faire, mais qui est faite. L'unité extérieure d'Église pourra prospérer, mais n'aboutira qu'à un grand mélange apostat sans Christ, les vrais croyants ayant été enlevés au ciel. Pour le moment, ceux-ci sont appelés à se séparer de tout ce qui déshonore Christ dans la chrétienté et à retrouver les autres fidèles qui désirent marcher dans le même chemin. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette brève étude? Alors, quelques applications. La première, je dirais, prions le Seigneur de nous débarrasser de toute mondanité qui nous affaiblit et nous aveugle dans notre marche chrétienne. Deuxième application, soyons vigilants et courageux. La séparation biblique peut être coûteuse. Elle peut nous emmener à être haï, rejeté, méprisé et même persécuté. Alors, comme il est mentionné dans le chapitre 10 de Matthieu, les versets 22, 24 et 25, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? » Et troisième application, rappelons-nous sans cesse que Christ est vainqueur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Que le Seigneur soit béni, loué et adoré pour son amour, sa protection et sa direction dans nos vies. Amen.